je l'ai dit haut et fort, l'artichaut, c'est le meilleur.
Pourquoi c'est connu ?
J'adore l'artichaut, cette émission qui parle d'art, d'art, d'art.
Bonsoir à vous qui suivez l'artichaut depuis votre poste radio ou sur notre site internet www.rdwa.fr. Ce soir pour l'épisode de l'artichaut, on va s'intéresser à l'art du pastel de Degas à Redon. Si le pastel est souvent associé au XVIIIe siècle, où il connaît un véritable âge d'or dans le genre du portrait, c'est pourtant au XIXe siècle que les artistes vont s'emparer de cette technique pour explorer toutes ses possibilités expressives. Médium fragile, peu exposé et difficilement transportable, le pastel est encore mal connu du grand public, son rôle étant souvent considéré comme mineur ou secondaire dans la carrière des artistes. Pourtant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le genre connaît un renouveau fulgurant. À la croisée du dessin et de la peinture, il permet une grande liberté de style et une sensualité inégalée. Léger, peu encombrant et ne nécessitant ni préparation ni temps de séchage, le pastel était la technique idéale pour les artistes de plein air. Dans la lignée des expérimentations de l'école de Barbizon, dont les artistes partaient en forêt pour saisir sur le motif les paysages et les effets atmosphériques, des artistes comme Félix Bouchard, Alexandre Nozal ou Léon Lhermitte utilisent le pastel pour représenter des scènes paysannes, rurales ou de la vie quotidienne.
Alors on va parler peinture, car votre arrière-grand-père, Léon Lhermitte, proche de Van Gogh d'ailleurs, on va en parler, est présent dans une très belle exposition consacrée au pastel de Degas à Redon. C'est au Petit Palais, 150 pastels de la deuxième moitié du 19e siècle. Nous y allons ensemble.
C'est la première fois que le Petit Palais expose 150 pastels issus de sa collection. Très sensibles à la lumière et au transport, ces œuvres sont rarement montrées au public.
C'est très fragile en fait. C'est assez compliqué à transporter, mais cette fragilité même est très puissante. Quand on regarde un pastel, on sent que tout est dans la poudre et que tout peut tomber au moindre souffle. Alors heureusement, c'est plus solide que ça, mais les artistes ont vraiment été sensibles à cet aspect de la technique pour véritablement renouveler tout un pan du dessin.
Le pastel connaît un âge d'or au XVIIIe siècle avec des artistes tels que la portraitiste Élisabeth Vigée-Lebrun. Il tombe en désuétude après la Révolution, mais à partir de 1850, le pastel revient sur le devant de la scène et séduit de nombreux artistes.
Il permet finalement de couvrir les grands courants picturaux de la deuxième moitié du XIXe siècle, à commencer par le réalisme, ce qui nous vaut des scènes de débâcle, de glace sur la scène, de paysages campagnards. Cette technique va aussi intéresser vivement les impressionnistes, donc pour des évocations peut-être plus légères, hein, de l'intimité familiale, une mère et ses enfants, comme Mary Cassatt, Degas, les scènes familiales, ou Renoir ou Berthe Morisot ont représenté des scènes de l'intime.
C'est aussi l'effet estompé du pastel qui intéressait les peintres symbolistes dans leur volonté de représenter l'âme et l'au-delà.
Le pastel naturaliste propose un regard simple et spontané sur ces sujets et ouvre la voie aux impressionnistes. comme souvent dans l'émission de l'Artichaut, on vous propose de découvrir certaines œuvres en vous plongeant sur la toile internet, sur Google. Vous pouvez peut-être découvrir l'artiste Léon Augustin Lhermitte, dont on a écouté un extrait également dans cette émission. Donc lui, c'est l'époque 1844-1925. Et on vous conseille dans cette émission de regarder La Moisson, les lieux de Gerbe. C'est donc créé au pastel. Et il y a aussi l'artiste Alphonse Hausbert, dont on vous propose le tableau Le lyrisme de la forêt de 1910, également en création pastel.
Vous ne voyez rien ? Éloignez-vous. Encore un peu. Il n'y a qu'avec le recul que vous percevrez le sujet, la lumière, les ombres, les mouvements. Maintenant que vous avez perçu tout cela, rapprochez-vous. Encore un peu. Maintenant, appréciez la touche rapide du peintre, l'épaisseur du dépôt, le mouvement de son poignet. Aujourd'hui, nous plongeons dans un bain de lumière. Nous découvrons l'impressionnisme. L'impressionnisme est à la fois une esthétique et un mouvement. Il voit le jour lorsque le tube de peinture pointe le bout de son nez. Certains artistes décident alors de sortir des ateliers pour peindre en plein air. Parallèlement, le chevalet va lui aussi évoluer à cette époque pour devenir plus léger. En plus de sortir des ateliers, les peintres peuvent désormais voyager. Un groupe d'artistes va alors en profiter et quitter les groupes académiques, se détournant des sujets en vogue à l'époque. Pour eux, un sujet en vaut un autre. Ce qui compte, c'est davantage la vision et la recherche picturale de celui qui le peint. Il représente alors des paysages, mais aussi des scènes de la vie. Il souhaite représenter la vie moderne, les villes, les gares, les usines, les loisirs de la société. Certains artistes s'approprient des sujets. On retrouve les guinguettes pour Renoir, les cabarets pour Toulouse-Lautrec et l'opéra pour Degas.
La touche vibrante et les possibilités colorées du pastel séduisent évidemment les artistes impressionnistes. D'Edgar Degas à Marie Cassatt et de Paul Guillaumin à Paul Gauguin, sans oublier Berthe Morisot et Auguste Renoir. Le médium traduit parfaitement les effets de la lumière et ses diffractions, accentuées par l'effet de flou dû au caractère pulvérulent du pastel. Le tableau « Dans le parc » de Berthe Morisot est un parfait exemple de cette recherche sur la représentation du mouvement et des effets de lumière. Le pastel continue à s'illustrer comme un art du portrait. Il devient mondain et représente la nouvelle élite bourgeoise qui s'empare de Paris.
Depuis quelque temps, je le sens en son nouveau courir sous ma peau, qui accompagne les fous battements de mon cœur, sourdement, sourdement, ça cogne là-dedans. Et de loin en loin, ça se rapproche, une marée de triple croche qui martèle les clous de ma nouvelle maison au rythme d'un tout qui m'invite à la passion. Et je taille ma route, rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie et je taille ma route. Plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie avant tout faisant.
L'Artichaut est une très belle émission qui parle d'art.
C'est curieux cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi ?
J'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
Le pastel sait rendre avec justesse le velouté de la peau et l'éclat des carnations. privilégiant les thèmes littéraires, mythologiques et les sujets propices aux rêves et à la méditation, les symbolistes voient dans le pastel le moyen parfait pour correspondre leur vision à leur esthétique. Leur œuvre témoigne d'une expressivité colorée, des visions antiques d'Émile Ménard au paysage lyrique d'Alphonse Osbert.
Pour les impressionnistes, la couleur est très importante. Ils la mélangent très peu. Utilisant des couleurs primaires et complémentaires, leurs palettes s'éclaircissent pour peindre la lumière dans le paysage. Ils sont fascinés par les changements de couleurs dans la journée, les saisons. C'est cette fascination qui donnera naissance à des séries comme Les Nymphéas ou La Cathédrale de Rouen. La touche devient plus rapide, en virgule. Ils peignent en instantané. Aujourd'hui encore, de nombreuses discussions visent à savoir si Degas ou Cézanne sont bien des impressionnistes. Monet, sur ce sujet, écrira un peu avant sa mort. Je reste désolée d'avoir été la cause d'un nom donné à un groupe dont la plupart n'avaient rien d'impressionniste. Car si l'on pense connaître l'impressionnisme en connaissant Monet, on se trompe. De nombreux artistes qui composèrent ce groupe, tels Morisot, Pissarro ou Caillebotte, se démarquent du style de Claude Monet, très influencé par l'art de l'Extrême-Orient. Si les impressionnistes sont aujourd'hui reconnus, c'est en partie grâce à Paul Durand-Ruel, un galeriste londonien. Ce dernier achètera plusieurs œuvres impressionnistes pour les présenter dans ses expositions, à Londres mais aussi à New York. L'impressionnisme a donc pour but de représenter la lumière et ses vibrations. Il souhaite peindre ce qu'il voit, non plus de manière parfaite, mais de la façon la plus réaliste possible pour que le spectateur ressente le mouvement de l'instant. Lilas au soleil, de Monet, représente parfaitement ce phénomène. Ce tableau se lit de deux manières. Avec le recul, il ressemble à un classique paysage. On y voit une très belle représentation de la lumière et des ombres sur les lilas. On ressent presque la fraîcheur de l'ombre et la pesante chaleur du soleil. En se rapprochant un peu, on découvre sous les lilas deux jeunes femmes profitant de cette fraîcheur. Si ce tableau représente aussi bien l'impressionnisme, c'est parce qu'il atteint parfaitement le but de ce dernier, représenter l'instant dans la plus grande fidélité. On imagine assez aisément que le peintre lui-même, face à ce paysage, n'avait pas vu ces deux jeunes femmes. Peut-être même que c'est ce phénomène d'ombre, ce camouflage, qu'offrit la lumière au personnage, qui l'arrêta et lui alloua le sujet de son tableau. L'impressionnisme est l'un des mouvements qui marqua le plus notre histoire de l'art. Et aujourd'hui encore, il est l'un des plus connus et souvent l'un des plus appréciés. Ce mouvement polymorphe accueillit en son sein nombreux des plus grands artistes de ce monde. Même Gauguin et Van Gogh en firent partie, dans un instantané, comme ce mouvement semblait le leur dicter.
Oui, c'est encore René Magritte à l'appareil. C'est pour dire que l'Artichaut, c'est vraiment une émission merveilleuse qui donne la frite.
Zoom sur. Odilon Redon est un des artistes les plus importants dans le renouveau du pastel à la fin du 19e siècle. Après sa période noire, il épouse la couleur à la fin de sa vie et trouve dans le pastel la matière à évoquer ses rêves et sa spiritualité. Il le dit lui-même, « J'ai épousé la couleur, depuis il m'est difficile de m'en passer. » Il se révèle être un pasteliste hors pair et cette technique convient parfaitement à son art suggestif et à l'explosion de la couleur. En l'associant souvent au fusain, plus sombre, le pastel de Redon traduit des méditations profondes de son Christ du silence à son célèbre Bouddha. Des œuvres que je vous conseille également de regarder sur internet dans des livres au musée, le Christ du silence et Bouddha de Odilon Redon.
des portraits montrant des jeunes femmes un peu éthérées, mais tout autant des allégories, des symboles, des visions à travers les arbres dans la forêt avec une lumière lunaire. Et ce médium s'y prête particulièrement par son côté vaporeux.
Le peintre Odilon Redon était connu pour ses œuvres surréalistes très mélancoliques, où il ne travaillait qu'avec le noir au fusain, mais sa découverte du pastel l'ouvre à la couleur.
Il se jette dans la couleur et à travers le pastel. Alors, il est évident que représenter des anémones au pastel, il y a une parenté entre l'aspect même des pétales et des fleurs, mais il représente aussi avec soin le fond de ces bouquets qui se détachent sur des fonds indistincts, avec quand même une sorte d'auréole.
Et parmi les peintres réalistes, on peut trouver votre arrière-grand-père, Léon l'Ermite. Un air de famille, non ?
C'est un artiste d'origine picarde qui a beaucoup fréquenté les paysans, a voulu vraiment mettre en avant leur vie. Son tableau le plus célèbre, La paix des moissonneurs, était un vrai grand succès au moment de sa réalisation, reproduit partout, un peu à la manière de l'Angélus de Millet. Et cet attrait pour le pastel rend bien aussi la texture des champs, la terre, les intérieurs un peu sombres. L'ermite le rend avec une virtuosité incroyable et sur une échelle étonnante. C'est-à-dire, alors, un critique du salon, quand ça a été présenté, a dit « grand tableau, petit sujet ». Donc il y a eu des critiques tout à fait enthousiastes par la façon dont il représentait la vie. On imagine presque les odeurs, même si on n'a que les couleurs. Toute l'agitation de ce marché. D'autres pouvaient être choqués de voir un sujet aussi « trivial », entre guillemets, accéder au format de la grande peinture d'histoire.
Léon l'Ermite, on le surnommait le peintre des moissonneurs. Il peignait la réalité sociale, on l'a compris. On vous en a parlé depuis toujours, de cet arrière-grand-père.
Oui, parce qu'il y avait des pastels de mon arrière-grand-père chez moi, et moi j'ai 3 pastels de Léon l'Ermite. Le grand-père de Léon l'Ermite, qui est devenu un peintre célèbre de son temps, c'était tout petit vigneron de la vallée de la Marne. Le fils instituteur. Léon l'Ermite qui devient un peintre très célèbre, et puis son fils qui devient un professeur de médecine, très
oui.
important, c'est marrant, voilà. C'est vraiment les Rougon-Macquart.
C'est important la filiation, un de vos enfants, enfin votre fillastrée qui est peintre.
Oui, absolument.
Ça existe au fond, ces transmissions.
C'est possible maintenant, on transmet des deux côtés, et les gènes se mélangent très équitablement à chaque. Fécondation.
Oui. Et vous n'avez pas, fait de prosélytisme ou en tout cas considéré que vos enfants devaient suivre votre voie.
Non, surtout pas. Alors, je les ai pas dissuadés, mais j'ai jamais encouragé à faire un truc artistique. En tout cas, acteur. C'est tellement aléatoire que c'est sûr, quand on est fils d'acteur et qu'on voit la vie facile, les succès, on se dit c'est toujours comme ça. Mais
Or, c'est loin d'être ça, en tout cas au début.
Et les souffrances de l'angoisse. Voilà.
Tu dors.
mystérieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi?
J'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
Signac est gravement affecté par la Grande Guerre. Ses convictions et ses finances souffrent du conflit. Pour pouvoir continuer à collectionner, il devra se défaire d'un de ses bateaux et ainsi financer l'achat d'un fusain de Redon.
C'est très intéressant ce centaure de Redon. Redon est un artiste symboliste, donc a priori Signac, après avoir été proche du milieu symboliste, s'est vraiment éloigné et est très exaspéré par les symbolistes. Néanmoins, ce dessin noir, très énigmatique, qui a un sujet mythologique, tient une place de choix dans cette collection. Et on comprend aussi très bien pourquoi Signac l'a choisi.
Il reconnaît que peut-être que ça représente un centaure et qu'il n'a jamais vu beaucoup de centaures, mais que ce soit un centaure ou une paysanne, eh bien, c'est du bon travail.
De Paul Signac, je connaissais le peintre, le néo-impressionniste qui divisait la couleur et qui présidait la Société des artistes indépendants. Le livre de Charlotte Hellman, Glissé mortel, permet d'entrevoir l'homme derrière l'artiste et sa drôle de double vie. Le jeune peintre qui découvre avec bonheur les théories de la division chromatique développée par Eugène Chevreul dans son essai de 1839 de la loi du contraste simultané des couleurs. Forcément, elle parle aussi de Georges Seurat, Félix Fénéon, Henri Edmond Cros, Théo van Rijsselberghe et des autres acteurs du néo-impressionnisme et du salon des artistes indépendants. Comme beaucoup de rapins et du tout Paris bohème, Paul fréquente assidûment le Chat Noir, haut lieu de la jeunesse artistique et intellectuelle. C'est là qu'il rencontre Berthe. Paul est un homme de tempérament et de passion. Il s'engage dans de nombreux combats artistiques et politiques. Assez paradoxalement, lui qui va mener une certaine vie de bourgeois se revendique anarchiste, milite pour la paix et s'indigne du sort des plus faibles. Profondément épris de liberté, il est aussi un grand voyageur, amoureux de voile et de cyclisme. En mai 1892, il découvre le petit port de Saint-Tropez, émerveillé. J'ai là de quoi travailler pendant toute mon existence. C'est le bonheur que je viens de découvrir. Il y peint de nombreux chefs-d'œuvre, animés par cette lumière particulière qu'il aime tant. En 1912, Paul Signac quitte sa femme Berthe pour une amie du couple, l'artiste Jeanne Desgranges. Pour lui, celle-ci divorce et abandonne ses enfants. Paul, de son côté, ne divorcera jamais et parviendra à faire adopter par Berthe l'enfant qu'il aura de Jeanne. C'est ainsi que Charlotte Hellman débute son récit. L'arrière-petite-fille de Signac a décidé de mener l'enquête sur une histoire familiale atypique et un peu obscure dont elle ne savait que ce qu'on avait toujours bien voulu lui raconter. Elle se plonge alors dans la correspondance et les archives et tente de saisir les méandres d'un passé déjà trop lointain. Comment cerner, comprendre, raconter cet homme, ces deux femmes et leur petite fille? Comment, au-delà des simples faits, rendre palpable ce qui les unit? Les lettres et les souvenirs familiaux se succèdent, mais le puzzle ne sera jamais véritablement complet. La réalité est trop complexe pour être érigée comme une vérité unique. À 50 ans, Paul Signac va enfin devenir père. C'est peut-être là le cœur de cette histoire, la naissance de la petite Ginette et le tour de force de cet homme qui parviendra à la faire adopter par Berthe. menant une vie déchirée entre celle qui est toujours sa femme et celle avec qui il vit désormais, Paul voit en Ginette un lien mystérieux qui lui donne la motivation nécessaire de continuer cette double vie. Comment a-t-il pu faire accepter à son épouse abandonnée de devenir la mère officielle de son enfant illégitime ? Le récit, s'appuyant sur une correspondance incomplète, n'apporte pas de réponse à toutes les questions. Avec pudeur et honnêteté, l'autrice nous offre cependant une fascinante immersion dans la vie intime de son bisaïeul et des femmes qui ont façonné son arbre généalogique si particulier. Il n'est pas nécessaire de bien connaître l'œuvre de Signac avant de se lancer dans cette lecture. L'histoire de l'art n'est ici qu'une toile de fond.
Personnellement, j'adore l'artichaut, cette émission qui parle d'art.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays d'Erdivoire. Il me semble que la misère serait moins pénible dans le diwar.
RDWA Radio, www.rdwa.fr.